Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Nous nous rendrons dans ce journal à Mayotte. Mayotte dont le préfet refuse tout report de la législative partielle de demain telle que souhaitée par un collectif d'élus. Dans l'est du Maroc, à Gérada, les interdits n'ont pas de prise sur une population à bout de force, à bout de nerfs. Aux origines de la contestation, un drame et des décennies de misère, Stéphanie Wenger. Inconsolables, les habitants de Rio, deux jours après l'assassinat d'une conseillère municipale respectée des populations défavorisées des favelas pour son combat contre les violences policières. Janeiro Marielle Franco aurait été abattu avec des balles issues d'un lot vendu à la police fédérale en 2006. Également au sommaire, le discours de Theresa May au congrès des Tories. La première ministre britannique surexploite les tensions et le bras de fer avec Moscou et raffermit ses soutiens. Ici, les gens n'ont rien à perdre. Ils risquent leur vie dans les puits de la mort. Ici, c'est Gérada, ville minière sinistrée du nord-est du Maroc à la frontière avec l'Algérie. Commune déshéritée qui demande de la considération. Ses habitants ont d'abord pleuré Houssine et Génouane, deux frères âgés de 23 et 30 ans, morts le 27 décembre dernier dans un accident dans une galerie, une de ces galeries à l'abandon. Colère, émoi, manifestation, appel au secours. Ensuite, Rabat a promis un plan d'action économique et puis plus rien. Ou plutôt si, de nouvelles manifestations. Mercredi dernier, des heurts avec les forces de l'ordre, des arrestations et des centaines de blessés de part et d'autre. Hier, dans Gérada, sous haute surveillance, les habitants ont défilé, chanté et bravé l'interdit. Cela fait trop longtemps qu'ici, les gens n'ont rien à perdre. Stéphanie Wenger.
Pour bien comprendre la persistance de la colère à Gérada, il faut rappeler que cela fait 20 ans environ que la mine a fermé et qu'aucune activité économique n'a remplacé le charbon. Le taux de chômage est parmi les plus élevés du Maroc, il monte à 32%. Du charbon, il en reste un peu, alors les hommes ont creusé des puits dans lesquels ils descendent dans des conditions très dangereuses pour extraire le minerai. 2000 familles continuent à en vivre, mais mal. En effet, un sac de 100 kilos est vendu environ 8 euros par le mineur. Fin 2017, la mort des deux frères a contribué à nourrir la détermination des manifestants qui réclament aussi la baisse des tarifs de l'électricité et de l'eau et de vrais projets de développement. Les rassemblements, les sit-ins sont alors presque quotidiens. Au départ, les autorités laissent faire. Elles proposent des mesures pour résoudre la crise. Différents ministres viennent dans la région et un plan d'urgence est présenté pour un montant de 2 millions d'euros. Pourtant, une partie des leaders du mouvement n'est pas convaincue et décide de poursuivre la mobilisation. Les autorités pointent la responsabilité d'agitateurs pour justifier l'interdiction des manifs et la répression. Cet après-midi, le Hirak, le mouvement, a fait part de son intention de ne pas lâcher prise. Nos revendications sont justes et le mouvement est pacifique, souligne un communiqué diffusé sur Facebook, qui demande désormais la libération des détenus et que cesse le harcèlement des forces de l'ordre. Si les autorités ont reconnu 9 arrestations, des sources sur place indiquent que les personnes interpellées depuis les affrontements de mercredi frôleraient plutôt le nombre de 20.
Stéphanie Wenger, notre correspondante à Rabat, au Maroc. L'armée syrienne, appuyée de ses alliés russes, a repris deux localités supplémentaires de la route orientale, Kfar Batna et Sakba, que fuient des milliers de civils. Dernière information en date que l'on doit à l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui dispose d'un important réseau d'informateurs dans le pays. Nasser al-Hariri, le chef du principal groupe d'opposition à Bachar el-Assad, déclare à Riyad en Arabie Saoudite « Nous tenons les Nations Unies, le Conseil de sécurité et la communauté internationale directement responsables de leur silence sur ces crimes et de ne pas avoir pris de mesures ». Depuis l'empoisonnement sur le sol britannique de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille, Moscou et Londres s'affrontent sur le plan diplomatique, 23 diplomates congédiés par les uns et les autres. Quand Vladimir Poutine trouve dans cette crise de quoi renforcer à la veille de sa présidentielle sa stature d'homme fort, le Premier ministre britannique engrange des soutiens au sein de son parti conservateur, Londres, Marina Daras.
Theresa May s'est adressée aux membres de son parti et a réitéré la culpabilité de l'État russe dans la tentative d'assassinat de Salisbury, répétant que le Royaume-Uni n'a aucun désaccord avec le peuple russe et que c'est leur gouvernement qui viole le droit international et la Convention sur les armes chimiques. Elle a malgré tout insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne tolérera jamais une menace à la vie des citoyens et résidents britanniques de la part du gouvernement russe ou de tout autre pays.
Cet acte d'agression russe est l'antithèse même des valeurs libérales et démocratiques qui définissent le Royaume-Uni. La primauté du droit, la liberté d'expression, la tolérance des opinions dissidentes, une presse libre, des élections justes et démocratiques et une société civile prospère, ce sont les fondements de la liberté humaine que nous défendons.
Theresa May, qui est depuis plusieurs mois extrêmement affaiblie dans son pays par les négociations sur le Brexit, est désormais dans une position de force galvanisée par le soutien des pays alliés. Son bras de fer avec Moscou lui a permis de très sérieusement resserrer les rangs à Westminster.
Des dizaines de milliers de retraités espagnols ont une nouvelle fois manifesté aujourd'hui pour une revalorisation de leur retraite et la défense du système actuel que la droite au pouvoir entend bien privatiser. Quatrième mobilisation de cette envergure depuis le mois de septembre dernier. Rio a du chagrin, mais aussi de la colère. Deux jours après l'assassinat de la conseillère municipale Janeiro Marielle Franco, l'indignation n'a pas faibli, tout au contraire. TV Globo, la plus grande chaîne du pays, a révélé hier que les balles de calibre 9 mm qui ont tué l'élu et son chauffeur venaient d'un lot vendu à la police fédérale en 2006. Information confirmée en soirée par le ministre de la Sécurité. C'est une correspondance de Rio de Janeiro, Dan Vigna.
L'indignation des Brésiliens, trois jours après l'exécution de Marielle Franco, est toujours aussi forte. Vendredi soir, le centre de Rio de Janeiro était à nouveau occupé par des manifestants demandant justice pour la jeune conseillère municipale. Hélène est venue avec trois amis après son travail. Pour elle, femme noire de la périphérie, Marielle Franco était leur représentante.
On a perdu une personne qui représentait une génération de jeunes Brésiliens. C'était une femme forte, noire, pauvre. Et son combat était de montrer l'inégalité énorme qui existe, que la violence dépasse tout ce qu'on connaît.
Son ami à côté l'interrompt pour ajouter
Non,
sa lutte était de dénoncer le génocide des pauvres et des noirs. Elle dénonçait cela, c'était une voix. Elle avait réussi à sortir de la pauvreté grâce aux études et elle était arrivée jusqu'au conseil municipal. Et ça, c'est énorme. C'est pour ça qu'elle est morte. C'est pour ça qu'ils l'ont exécutée. D'autres manifestations sont déjà prévues ce dimanche et la semaine prochaine. L'objectif est de ne pas relâcher la pression pour que la police enquête sérieusement ce crime. Les premiers indices montrent que les forces de police pourraient être à l'origine de cet assassinat. Les balles utilisées appartenaient à la police fédérale et ce même lot avait déjà été utilisé lors d'un massacre dans la périphérie de São Paulo en 2015. 17 personnes avaient été tuées par des policiers, dont 4 ont été condamnées depuis. La police enquête aussi la milice, une mafia composée d'anciens policiers et qui règne sur la zone ouest de Rio. Marielle Franco avait participé à une commission d'enquête parlementaire en 2008 qui avait obtenu l'inculpation de 225 personnes liées à la milice.
Anne Vigna à Rio de Janeiro. Le préfet de Mayotte convoque les fondements régaliens et adresse une fin de non-recevoir aux élus de l'île qui ce matin appelaient à un report de la législative partielle de demain. Ces élus ont pourtant exprimé bien des craintes, craintes de violence ou de débordement. Sandrine Etoa-Andeg est à Mayotte.
Mayotte, c'est la République, c'est la démocratie, ce sont les citoyens qui s'expriment dans les urnes. C'est la réponse du préfet de Mayotte, Frédéric Vaux, à cette demande de report. Il l'affirme, l'État prendra toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement du scrutin. D'ailleurs, des forces de l'ordre venues en renfort et les équipes de l'île présentes se tiennent prêtes à intervenir. Pour les élus, au contraire, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Le vote ne peut pas se dérouler sereinement, même si les écoles et les mairies seront ouvertes. Il y a les barrages qui paralysent l'île et limitent les déplacements. Un risque de débordement, certains manifestants menacent de perturber le scrutin. Ils expliquent aussi que dans ce contexte de crise, les 8 candidats n'ont pas vraiment pu faire campagne. Si un bureau ne peut pas être ouvert, le code électoral permet de le déplacer à un autre endroit, répond encore le préfet. Dont acte, selon le porte-parole des élus, qui s'attendent, je cite, à recevoir une cascade de plaintes après l'élection. Un porte-parole du mouvement social, lui, invite les électeurs de la première circonscription à boycotter le scrutin.
Un millier de personnes dans les rues de Paris à l'appel de collectifs de soutien aux migrants et de sans-papiers, une marche de solidarité et une tribune contre les violences policières. Ils sont tous différents et bien ensemble. Ils, ce sont les jeunes avec Macron, tels que décrit par le cofondateur du mouvement, le député En Marche Sacha Houlier, mouvement qui tient ce samedi sa première convention nationale à Nogent-sur-Marne. Emmanuel Macron éprônait lors d'un autre rendez-vous politique le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Son secrétaire national David Cormand y a dénoncé, je cite, l'orthodoxie libérale du chef de l'État devenu le rabatteur des extrêmes. Fin de citation. Les grandes lignes météo de demain, temps couvert sur l'ensemble du pays et du froid sur le nord et l'est avec quelques flocons. Chute de neige plus importante sur la Bourgogne-Franche-Comté. Temps à la pluie sur l'ouest et temps plus calme sur le sud-est. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique d'Ophar Guéride.